D'accord, donc on démarre. Bonjour, bonsoir plutôt à tout le monde. La journée est un peu avancée quand même. Donc c'est le cours numéro 9 de survol du Nouveau Testament. Nous allons continuer là où nous en étions. Et voilà, on va prier déjà pour le cours. Et puis on va voir où nous allons aller. Seigneur Jésus, on veut te remettre cette soirée, cette heure de cours, heure et quart. Et on te prie pour... ce que tu as à nous dire à travers les livres que nous allons voir, que ça puisse être clair, et que ça puisse être utile pour nos vies, et que ça ait du sens et que ça se tienne, Seigneur. Et puis on te remet chacune de nos vies au-delà de tout ça, et que l'on apprenne à te connaître tel que tu es. Amen. Alors, on s'était arrêté à Philippiens, c'est ça? Et on avait vu un petit peu des passages en Philippiens, enfin léger. On avait vu quoi? On avait juste vu ça. Non, je ne sais plus. On avait vu un ou deux passages. Deux passages, oui, c'est ça. Donc là, avant d'enchaîner sur la suite qui va être Colossiens, puis les suivants, évidemment, je voulais vous faire... comment on dirait ça? Non, pas un résumé. En fait, je vais vous donner un petit peu des dates et caler par rapport à des événements pour certains livres, et notamment pour des livres qui sont là à venir et qu'on a vus. Je l'ai peut-être dit en passant, mais là, du coup, on va regrouper un peu. C'est des fois assez intéressant de se dire, tiens, ces livres-là, ils ont été écrits dans un... Enfin, ils ont été écrits, pas créés. Dans un contexte qui est similaire, c'est à peu près la même période, la même année. Des fois, ça peut nous parler aussi. Donc, juste pour dire que donc Galates, apparemment, c'est le premier livre écrit par l'apôtre Paul en 49, et c'était lors de son premier voyage. Donc, a priori, autour du premier concile. Ensuite, donc comme ça, on va essayer de rester un petit peu chronologique. 1 et 2 Thessaloniciens, que j'espère bien que nous verrons ce soir, sinon j'aurai un grave problème, ont été écrits en 52 après Jésus-Christ. 52, 53, on ne va pas chipoter. Et c'est lors de son deuxième voyage. Ensuite, nous avons 1 et 2 Corinthiens, que nous avons vu un petit moment. C'était en 57, c'était... En 57 ou à peu près autour du troisième voyage. Après les précisions, on a... Romains, c'est pareil, c'est à peu près la même date. Pardon ? 1 et 2 Corinthiens et Romains, c'est environ en 57 et c'est lors de son troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Donc voilà, ça nous situe un peu les choses. Peut-être que je l'ai dit en passant, mais c'est bien des fois de regrouper un peu les choses. Surtout nous, on a un peu une pensée un peu comme ça où on regroupe un peu les couleurs qui se ressemblent, les numéros qui vont ensemble, et ça nous aide à avoir un peu des séries, des fois. Ensuite, alors voilà, là c'est un peu autre chose, Colossiens, que nous allons voir ce soir, Éphésiens, que nous avons vu, Philippiens, Philémon, que nous verrons un jour, et Hébreux, que nous verrons également un jour, ceux-là ont été écrits en 62, alors pareil, hein, je me permets de vous dire 62 ou... à peu près, selon les commentateurs, les uns, les autres, les éléments qui les rassemblent et ceux sur lesquels ils mettent peut-être plus d'importance ou qui leur paraissent être plus probants, c'est plutôt un peu plus, un peu moins, parce qu'il y a eu telle ou telle chose. Mais on ne va pas s'amuser à rentrer dans des détails qui peuvent être intéressants, mais qui nous feraient passer beaucoup de temps pour voilà, juste dire « Bon, ben alors, vous comprenez, c'est plutôt 62 que 63 ». Ou 65, et ça changerait pas forcément tant que ça les choses. Non, par contre, la chose qui est intéressante avec Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Philémon et Hébreux, c'est que il a écrit donc lors de son premier emprisonnement, l'apôtre Paul. Et donc, on pense qu'il a écrit de Rome. Maintenant, par rapport à ces emprisonnements, il y a une petite, on ne va pas appeler ça une confusion, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas très sûr, très net. On sait qu'il a été emprisonné, en tout cas à Rome, notamment le deuxième emprisonnement, et que donc c'est a priori là qu'on a dû lui couper la tête. Donc ça, évidemment, ce n'est pas relaté dans les actes, ce n'est pas retranscrit ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais pour le premier emprisonnement, voilà, des fois on parle de Rome, des fois on dit que non, c'était peut-être à Éphèse, enfin, ce n'est pas très clair. Mais à la limite, peu importe. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un emprisonnement qui a été, on appelle, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, il était assigné à résidence. Donc en fait, je crois même qu'a priori, ou en tout cas, il y en a peut-être eu deux, il y a peut-être eu deux moments comme ça, où en fait, il louait une maison et donc il pouvait recevoir des gens, mais il n'avait pas le droit de circuler comme il le voulait. Et par contre, le deuxième emprisonnement, c'était un emprisonnement comme on l'entend nous, dans une prison. Et donc, le deuxième emprisonnement, c'est autour de 67. Et là, à cette occasion-là, il a écrit 1 et 2 Timothée ainsi que Tite. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont non seulement des épîtres dites pastorales, ce qui n'est d'ailleurs, ce qui est vrai et pas complètement, parce que oui, il s'adresse plutôt à une personne qu'à une église, et la personne est un pasteur qu'il a mis en charge lui-même, enfin deux pasteurs plutôt. Mais disons que dans le contenu de ces lettres, il n'y a pas que des choses qui concernent des pasteurs ou des anciens en fait. C'est pour ça que je dis que quand on dit que c'est des épîtres pastorales, c'est aussi un peu un choix qui est vrai, mais qui n'est peut-être pas complet. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est en 67, et c'est lors de son deuxième emprisonnement, qui est effectivement à Rome, et qui va être le dernier, et où il va mourir. Et donc là, par contre, on le voit à travers ces lettres-là, par moments, dans certaines choses qu'il dit, là, les conditions de vie ne sont pas les mêmes, la liberté n'est pas la même, enfin voilà, rien n'est pareil. Quand il demande à ce que Marc lui amène ses parchemins et son manteau parce qu'il a froid, c'est qu'il n'est pas dans un appartement qu'il loue et il n'a simplement pas le droit d'aller dans la rue. C'est qu'il est dans une prison, comme on le comprend, évidemment. Donc du coup, ça donne aussi une autre teneur au contenu des lettres. Quand vous écrivez, vous êtes en liberté, vous réfléchissez sur les choses, sur l'Église, sur la vie, sur je ne sais pas quoi, vous écrivez des choses, et quand vous écrivez les mêmes choses, des choses un petit peu différentes dans un contexte où vous êtes en prison, même à un moment donné, dans une de ces lettres, clairement, il comprend bien que là, il est arrivé à la fin, hein. C'est pas je suis en prison, je sais pas combien de temps ça va durer et je sais pas si on va me couper la tête ou si je vais sortir un jour, c'est je sais qu'on arrive à la fin et qu'on va me couper la tête, je sais peut-être pas quel jour, mais je sais que là on arrive, c'est bon, là on est dans le dernier set là, hein. on joue le tie break, c'est la fin là, hein. Pour ceux qui comprennent un peu le tennis, sinon je vous expliquerai comment on compte les points au tennis, mais ça sera pas ce soir. Ou ça ne sera peut-être pas pendant un cours non plus, d'ailleurs. Donc, voilà. Ensuite, je ne vais pas vous donner les dates du reste. Les autres livres, on les verra. C'est pas important. Enfin, c'est pas important pour ce soir. Donc, nous allons avancer, du coup, dans Colossiens. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'avais dit en termes de thème sur les livres qu'on avait vus la dernière fois, y compris Colossiens que nous n'avons pas vus? Alors, Galates, c'était quoi, là ?
Philippiens, c'est la joie.
Non. Philippiens, oui. Philippiens, c'est la joie, on est d'accord. Galates, c'est la justification par la foi. Oui. Éphésiens, c'est le corps du Christ, voilà. Et Colossiens, c'est la tête du corps. C'est ça. Alors là, encore une fois, quand je dis que les épîtres pastorales, c'est vrai et que ce n'est pas complet, là aussi, ce n'est pas absolument complet. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir vite fait. Dans Colossiens, donc effectivement, il met une emphase énorme, notamment les deux premiers chapitres, puisqu'il y en a quatre, que je ne dise pas de bêtises, tourne les pages, c'est vite vérifié. Il met une emphase énorme sur Jésus-Christ, sur la prééminence de Jésus-Christ, sur le fait qu'il est la tête du corps, que le fait qu'il soit la tête du corps, c'est aussi une révélation que Dieu a donnée finalement à l'apôtre Paul, et qui n'était pas connu avant. Et il explique aussi que Jésus est le premier de tout. C'est pour ça qu'on va s'arrêter sur justement une partie de ce passage-là, où il y a des choses qui ont été comprises, interprétées d'une manière qui est fausse. Mais déjà, juste avant de venir là-dessus, Pourquoi est-ce qu'il met l'emphase sur le fait que Jésus-Christ est le premier de tout, le premier de la création, le premier des morts, etc., qu'il est la tête, etc., enfin, qu'il est au-dessus des anges, qu'il est au-dessus, enfin, tout ce que vous voulez. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'en fait, dans l'église de Colosse, manifestement, il y a, je vais même dire plutôt dans la région, parce qu'en réalité, la réalité, c'est que la lettre de Colosse était une lettre, alors, peut-être pas circulaire comme celle d'Éphésiens, mais qui ne s'adressait pas uniquement à l'église de Colosse. Il y avait dans la région d'autres églises, notamment la Odyssée, et à un moment donné, il le dit, que cette lettre soit lue par les autres, et en fait, une lettre qu'eux ont reçue, vous allez la lire vous aussi. Donc voilà, donc du coup, c'est plutôt un problème, on va dire, dans la région. Chose quand même que je dois aussi vous dire de suite, ce n'est pas l'apôtre Paul qui a fondé l'église de Colosse. C'est Épaphras, et là, pour dire les choses avec précision, je vais les lire, ça sera plus simple. Donc voilà, l'église de Colosse n'a pas été fondée par Paul, elle a été fondée par Épaphras, qui est un Colossien. Il était venu s'instruire auprès de l'apôtre Paul pendant le séjour de l'apôtre Paul, à Éphèse, qui était la capitale de la province. Parce que Paul a passé 3 ans, en tout cas, à Éphèse, église que lui a fondée. Et donc, Épaphras était venu, il a été formé, il est reparti, il a démarré une église à cet endroit-là. Si je ne me trompe pas, Philémon, dont on parlera plus tard, où il y a juste une lettre, une page, on va dire, qui lui est adressée, qui est, on va dire, très personnelle et qui, en même temps, a des, oui, on va dire, des portées théologiques que l'on verra. Il semblerait que l'église de Colosse se réunissait dans la maison d'Épaphras. Mais Épaphras, sa maison, c'était pas la dimension de celle-ci ici, vous voyez. C'était un riche propriétaire qui devait avoir une très grande maison, qui avait des esclaves, etc. De son esclave, forcément, il en avait, puisque la lettre à Philémon, le sujet, c'est justement à propos d'un de ses esclaves qui s'est fait la malle. Donc, on y reviendra, on va pas s'arrêter là-dessus. Donc, par contre, oui, donc c'est Épaphras qui a écrit. Et je vais voir un tout petit peu plus de précision par ici. C'est vrai que quand j'ai 2 mains, c'est plus pratique pour tourner les livres. J'avoue que c'est vrai. Donc voilà. Donc la lettre, elle a été la lettre aux Colossiens. Elle a été portée par Tychique en Asie Mineure, donc notre, on va dire, disciple de l'apôtre Paul. Voilà. Donc le lieu de rédaction de la lettre, ça aurait été Rome. Donc évidemment, elle s'adresse essentiellement à Colosse, mais aussi à la région. Donc ça, après, je répète la même chose. Sinon, donc oui, c'est ça. C'est Épaphras et Philémon qui ont dû faire la connaissance de Paul. Ils se sont convertis et ils ont été enseignés par lui. Ils sont retournés dans leur ville et ils ont fondé l'église. Et donc, effectivement, l'église, c'est ça. Elle se réunit dans la maison de Philémon. Et en fait, ça, on le voit en Philémon au verset 2. J'allais vous dire chapitre 2, mais il n'y a pas 2 chapitres dans Philémon. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas en fait. Donc voilà, donc du coup, ce sont les anciens de l'Église. Voilà, ça c'était pour un peu l'environnement. Le pourquoi de la lettre, alors voilà, le pourquoi de la lettre, c'est ce sur quoi je voulais venir. Épaphras est venu rejoindre Paul dans sa prison. Alors ça aussi, c'est intéressant, parce qu'à la limite, quelle que soit la prison de Paul, donc il était à Rome, ça veut dire que Épaphras, et d'ailleurs je crois que Paul le dit à un moment donné dans une de ses lettres, il loue, on va dire, la foi et bon, quelque part on va dire aussi l'amitié de Épaphras, parce qu'en fait il vient à Rome et ce que Paul dit, c'est que Épaphras m'a cherché. Mais ça veut dire qu'il a cherché un geôlier, enfin pas un geôlier, un prisonnier. Il n'a pas à dire, vous venez ici, vous cherchez Pasteur Jean, vous cherchez sur Internet, machin, vous allez taper à des portes, est-ce que vous savez où est-ce qu'il habite et tout. Oui, mais vous cherchez quand même un homme libre. Vous cherchez lui comme vous pourriez chercher quelqu'un d'autre, voilà, comme vous demandez n'importe quoi, n'importe qui dans la rue, en fait. Mais là, c'est en fait, vous ne savez pas dans quelle prison il est, où est-ce qu'elle est la prison, parce que moi, je cherche un gars, il s'appelle Paul, et voilà. Ou alors, vous savez où habitent des gens qui sont assignés à résidence Mais pourquoi, c'est un pote à toi? Ben ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Tu peux passer le trottoir d'en face, s'il te plaît? Parce que finalement, je ne sais pas, Goethe, il est en prison, toi, tu cherches un gars qui est en prison. Vous avez des relations un peu louches, quoi. Hein. Vous voyez, donc, et du coup, c'est intéressant, parce que Paul est en train de dire, oui, ce gars, en fait, il est vertueux parce qu'il m'a cherché à Rome. Et Rome, à l'époque, enfin, dire dans le contexte de l'Antiquité, ce n'est pas une petite ville. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une ville très grande en superficie, hein, Rome, hein, je veux dire, c'est de la rigolade. Mais, je veux dire, par rapport aux villes qu'il y avait à l'époque, ben voilà, c'était une grande ville, et le gars, il a cherché Paul. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, il est venu rejoindre Paul dans sa prison pour l'informer des difficultés qui sont donc survenues donc, dans l'Église, forcément, par suite de prédications de fausses doctrines. Et donc, Paul va effectivement écrire des choses, donner des conseils. Voilà. Maintenant, par rapport au contenu, donc j'y reviens, au contenu de Colossiens. Donc, il y a, pourquoi il met cette insistance sur Jésus qui est au-dessus de tout ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y a... comment dire ? Au IIe siècle, il y a des hérésies qui ont germé dans le monde chrétien et autres, qu'on appelle notamment donc, le gnosticisme, qui se base sur une importance faite à la connaissance, qui met en place des intermédiaires autres que Jésus-Christ, donc qui peuvent être des anges, qui peuvent être d'autres choses, certains termes qu'il utilise ici dans sa lettre. Et le gnosticisme, donc voilà, donc la connaissance, et oui, aussi qui met en place un culte des anges. Voilà. Et si vous voulez, ça, c'est une doctrine qui s'est bien mise en place et qui a été bien connue au IIe siècle. Mais au Ier siècle, donc après Jésus-Christ, et donc à l'époque où il écrit, où il y a donc cette église de Colosse, là où on est en train de parler, c'est peut-être pas aussi connu, mais en fait, c'est justement ces doctrines-là en germe qui étaient en train de poindre et qui était en train de troubler un peu l'église de Colosse. Et du coup, il répond à ça. C'est-à-dire que vous cherchez des intermédiaires qui sont des anges, vous cherchez des trucs, vous cherchez la connaissance et tout, et moi, je suis en train de vous expliquer que Jésus, il est au-dessus de tout ça, et qu'il est le seul médiateur. Donc voilà, c'est un peu le sens de sa lettre, et ce à quoi il répond. Et comment on sait qu'il répond à ça ? Parce qu'en fait, on le trouve simplement à l'intérieur de la lettre. Il parle de certaines choses et pourquoi il y parle ben parce que justement c'est que le problème il est là dans l'église, c'est que des gens devaient dire certaines choses et donc lui il est en train de répondre à ces choses là c'est pas forcément qu'on a énormément de sources extérieures qui nous indiquent que oui selon le Midi Libre de plus 48 après Jésus-Christ tel dimanche il y a telle chose qui a été prêchée et... non c'est pas ça, c'est... on le tire de ce que Paul a écrit en fait. Alors, on va rentrer brièvement un peu dans les textes et s'arrêter pour avoir des choses quand même un peu intéressantes. Et essayer de s'arrêter sur des choses qui font un peu polémiques ou qui sont importantes dans la lettre. Alors, on va lire à partir au premier chapitre, à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alors on va s'arrêter un petit peu sur les choses ici, parce que, il y a des choses qui ont fait polémique ou qui sont interprétées d'une manière erronée par certaines. Donc, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, la chose qui est intéressante à ce niveau-là, c'est par exemple par rapport à des... Alors, Par rapport, je vais dire, on va pas dire la rengaine, on va dire le leitmotiv qu'il y a avec les lettres de Paul, notamment, mais pas que, mais surtout lui, c'est toujours cette lutte contre l'attachement à la loi et à une forme de légalisme, et de toujours remettre en avant le principe de la grâce. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, à partir du moment où il explique que ce que vous avez vécu avec Christ par rapport à l'évangile que je vous ai prêché, le résultat, c'est que vous êtes passé d'une sphère à une autre, ça signifie qu'aujourd'hui, vous vivez dans une autre sphère et qu'il n'y a pas de marche arrière. Il y a quelque chose qui est définitif. Je veux dire, il nous a donné la délivrance de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'en fait, quelque part, il est en train de leur dire, il y a des gens qui sont venus vers vous pour rajouter ou pour modifier ce que moi, j'ai pu, ou ce que Epaphras vous a enseigné, via... ou plutôt ce que moi je vous ai enseigné via Epaphras plutôt. Mais en fait, finalement, ce qu'ils sont en train de vous dire, au-delà du fait que c'est faux, c'est inférieur. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus que la rédemption et la rémission des péchés? Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que vous allez avoir la même chose, mais en passant par des intermédiaires qui sont, par exemple, des anges. Ou qui, intermédiaire qui va être une accumulation de connaissances qui fait que vous allez vous retrouver à un niveau qui fait que vous vous rapprochez de Dieu. Mais là, je suis en train de vous dire, il n'y a pas de rapprocher. Vous y êtes dedans. Il n'y a pas de gagner quelque chose de plus. Et à la limite, le pompon qu'ils vous proposent à travers leur nouvelle doctrine, vous l'avez déjà reçu par un autre biais qui est unique et qui est Jésus-Christ, en fait, qui est ce que Christ a fait à la croix. Donc ça, c'est la manière dont il répond. Et en continuant, évidemment, sur cette importance qu'il met à Jésus-Christ, il dit « Il est l'image du Dieu invisible. » Il est l'image du Dieu invisible. C'est intéressant parce que certains, à partir de ce verset-là, par exemple, peuvent dire « Il est l'image du Dieu invisible, donc il n'est pas Dieu. » Donc la Trinité est quelque chose de faux. Mais... c'est quoi une image? Une image, c'est quoi, en fin de compte? C'est la représentation fidèle, ou le plus possible, de quelque chose qui est vrai. Sauf que Jésus, il n'est pas qu'un dessin sur un bout de papier. Il est une personne. Il est un être. Et donc, cet être, cette personne, est l'image du Dieu invisible. Là, qu'est-ce que Paul veut dire à cet endroit-là? C'est pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu s'est montré de manière la plus possible, la plus complète possible à nos yeux par l'incarnation de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais certains vont prendre ce verset-là et dire, ben non, en fait, ça veut simplement dire que ben, Dieu, c'est Dieu, et lui, il est juste, il est un petit Dieu, comme diraient les témoins de Jéhovah, par exemple. Hein, qui vont beaucoup aimer la fin du verset aussi. Il est le premier-né de toute la création. Donc pour eux, comme il est le premier-né de toute la création, qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion? C'est qu'il est une création. Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Mais en fait, en grec, ici, le terme premier pour premier-né, c'est un terme de valeur et non pas d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier en tant que le premier à avoir été créé, ce qu'interprètent les témoins de Jéhovah et d'autres, il est le premier en termes de primauté, en fait. C'est ce que signifie le terme grec ici. Et de toute façon, c'est cohérent, bien entendu, et avec le livre de Colossiens, et avec la théologie de Paul dans l'ensemble des livres que nous voyons, et avec, évidemment, l'ensemble de ce qu'on voit sur le Nouveau Testament. Donc, il est le premier-né de toute la création. Ça signifie qu'il est la primauté. Donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et là, d'ailleurs, je veux dire, des fois, c'est intéressant parce qu'en fait, si on essaye d'être assez honnête avec le texte, Des fois, la plupart du temps, le texte répond à des questions que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que si on se dit, tiens, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il est une création et qu'il est la première des créations parce qu'il est le premier-né de la création, ce qui est écrit, ce que je viens de lire là dans la suite, a peu de sens. S'il est la première création, pourquoi est-ce que tout a été créé en lui, tout a été créé, et sur terre et au ciel. Et non seulement tout a été créé en lui, mais ça a été créé même pour lui. Ça a peu de sens s'il est la première création en termes de d'ordre, on va dire. Vous voyez ? Ça n'a pas vraiment de sens. Ou alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu a besoin de créer un intermédiaire avec tout ce qu'il peut avoir créé ? Non, ce n'est pas le cas. Et Jésus... deuxième personne de la Trinité, fait homme, il est un médiateur. Il n'est pas un intermédiaire qui serait nécessaire pour que je ne sais pas quoi, pour que Dieu parle ou que n'importe quoi. Non, il est un médiateur. Et médiateur utile parce que, et indispensable, parce que dans la théologie, à partir du moment où Dieu est saint et qu'il y a le péché, et que l'homme est un homme, il y a besoin que ce soit un homme qui fasse le pont entre les deux. Et il faut même que ce témoin entre les deux, ce pont, il ait les deux natures. Sinon, le médiateur, un médiateur, il a besoin d'être un peu des deux parties pour être une médiation. Sinon, ben non, il défend un parti ou il défend l'autre, obligatoirement, je veux dire. Donc voilà. Bon, après, c'est pas forcément non plus des preuves absolues. On peut toujours ergoter dessus, mais en tout cas, ça a un tant soit peu de sens. Donc, et il est avant toute chose. Donc voilà. Donc pour eux, ils vont dire, ben oui, mais il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est là, et après, il passe quelque part à autre chose. Il est la tête du corps de l'Église, et il est le commencement. Et alors ça, c'est intéressant, par contre. Déjà, qu'il soit la tête du corps de l'Église, déjà, ça signifie que l'Église, ce n'est pas juste un rassemblement d'hommes et de femmes, comme un club, une équipe de foot, une association caritative, un parti politique ou autre chose. Ça veut dire que là, apparemment, il y a une autre dimension que l'on va qualifier de spirituelle, mais en tout cas qui a vraiment un sens en Dieu. Parce qu'il est en train de dire que celui qui est avant tout, qui est au-dessus de tout, et qui a tout créé et que tout a été créé pour lui et qui fait subsister toute chose, il est la tête de cet organisme qui est le corps, qui est l'Église. Donc il y a une dimension qui est impalpable, invisible et compréhensible comme on peut, on va dire. Mais donc il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça c'est aussi intéressant, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier d'entre les morts. Alors déjà, ça veut dire une chose, contrairement à ce que vont dire et les témoins de Jéhovah, mais surtout les musulmans, c'est qu'il est mort. S'il est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire qu'il est passé par la mort. Sinon, il n'est pas le premier-né d'entre les morts. Et qu'il soit le premier d'entre les morts, ça signifie qu'il est le premier de ceux qui sont ressuscités, en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais pour qu'il soit le premier d'entre ceux qui sont ressuscités, et donc le premier des morts, ça signifie qu'il a goûté la mort, alors que les musulmans, dans leur théologie, vont vous dire « Non, non, c'était un autre qui était sur la croix. C'est une erreur. Lui, non, non. Lui, il est parti. Non, non. Lui, c'est un prophète, c'est un grand, c'est un machin, etc. » Là, non. Non, non. Il nous a dit autre chose. Il est passé par la mort, comme nous, ça sera le cas. Donc, voilà. Ensuite... Alors, ensuite, on va aller au chapitre 2, au verset 8, et on va lire un peu les versets qui suivent. On va avoir comme ça deux petits bouts de passage, et on passera ensuite, je pense, à un de deux Thessaloniciens, et si on arrive à aller vite, on ira vite, et voilà. Verset 8, 2-8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Là, c'est pareil, par rapport à la Trinité, par rapport au fait que Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez comprendre d'autre dans, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors oui, vous pourriez dire, ben oui, c'est un homme, Dieu habite en lui, et puis à un moment donné, Dieu, peut-être Dieu s'en va, et la coquille, elle tombe. Pourquoi pas ? Mais quand même, car en lui habite corporellement, donc dans son corps, oui, toute la plénitude de la divinité. Mais je dirais que, comment dire, quelque part, d'une manière technique, on va dire, si on peut parler comme ça, avec notre petite compréhension des choses et avec notre petit vocabulaire, dans un corps, la plénitude de la divinité, elle ne peut pas rentrer. Donc, il est Dieu par essence. Et effectivement, Dieu par essence prend une forme humaine. Et donc, la plénitude de la divinité habite dans ce corps. Mais dire, à contrario, qu'un Dieu extérieur rentrerait en Jésus-Christ temporairement, et que lui, ça serait qu'un homme, on va dire, utilisé comme une enveloppe pendant un certain temps, parce que c'est, ça serait l'autre manière de comprendre ce verset, quelque part. Ça a, je dirais, malgré tout, peu de sens. Ça ne tient pas vraiment, je pense, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc là, il s'adresse à certains qui sont quand même judaïsants aussi et qui veulent ramener aussi la loi dans leur fonctionnement à Colosse, puisqu'il y avait donc des chrétiens d'origine païenne et des chrétiens d'origine juive. Et surtout, là, il parle d'autre chose. Donc, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, donc de la circoncision, ben, évidemment, physique que les juifs pratiquent, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc ça signifie qu'il y a une circoncision spirituelle que Dieu a fait à la conversion pour nous et que nous avons à expérimenter au quotidien. C'est le dépouillement du corps de la chair. C'est en fait le fait que nous le sommes de manière absolue, et définitivement parce que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, mais dans notre expérience, d'expérimenter le fait justement que la circoncision, c'est quoi ? C'est on détache un bout de peau d'une partie de l'homme. Là, c'est quoi ? C'est en fait, c'est le fait que de qui nous sommes, Dieu détache la chair. Là, quand je dis la chair, c'est le principe du péché. C'est le vieil homme. C'est ça, en fait, qu'il explique. Mais ça, c'est spirituel. Donc ça veut dire que vivre aujourd'hui avec Christ en étant séparé de notre nature pécheresse, alors je ne vais pas vous dire 24 heures sur 24 en permanence, mais le principe, il est expérimentable, il est vivable, et en fait ça s'appelle la vie chrétienne et la sanctification progressive. Mais qui dit progressive sous-entend que manifestement nous n'avons pas arrivé à l'expérimenter en permanence. Et ça, on n'a pas besoin de lire la Bible et des livres pour comprendre que dans notre vie de tous les jours, ben, nous péchons encore, nous sommes encore attachés à la poussière, nous faisons des mauvais choix, nous sommes attirés vers le bas, nous avons des pensées qui ne sont pas celles de Dieu, etc., etc., bien entendu. Mais ce qui est dit, c'est que parce que Christ a tout fait, parce qu'il nous a amenés dans un autre royaume, nous pouvons expérimenter tout au moins, on va dire, ponctuellement, mais ponctuellement, je dirais comme, vous savez, les peintures des impressionnistes. Vous connaissez ? C'est pas je prends un pinceau et j'étale ou je dessine un truc. C'est en fait, je dessine quelque chose de visible en faisant des petits points, en faisant des impressions. Et je dirais quelque part, être rempli du Saint-Esprit ou expérimenter le baptême, pas le baptême du Saint-Esprit, mais vous savez, des fois, il y a des mouvements chrétiens qui vont parler de seconde expérience. Mais en fait, ce que moi, j'appellerais la seconde... Alors, je ne suis pas d'accord avec la terminologie de ce qu'il dit une seconde expérience, notamment par rapport aux conséquences que ça peut avoir dans notre compréhension et dans notre fonctionnement. Je ne suis pas d'accord non plus sur le contenu qu'ils y mettent en général. Mais par contre, là où où je peux être d'accord, c'est que je pense qu'il y a une deuxième, il n'y a pas une deuxième expérience à vivre, il y a des deuxièmes expériences à vivre, mais ça s'appelle être rempli du Saint-Esprit, et ce sont ces petits points de la peinture de l'impressionniste. C'est-à-dire que, en fait, Dieu façonne l'image de Christ en moi par ces petits points où j'accepte d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce sont des petits points, mais entre les points, il y a des vides. Et les vides, c'est ce que nous connaissons bien, c'est l'expérimentation de notre chair qui nous cause problème et qui nous ramène toujours au fait que ben, nous sommes ici et pas là-haut. Hein ? Mais par contre, la vie chrétienne, c'est pas de dire « Moi, je suis juste un trou béant, il n'y a rien qui a à faire et tout se fera quand je serai au ciel, et c'est tout, et entre-temps, ben, j'essaye de vivre ma vie de patachon, et puis je m'appelle chrétien, et puis voilà. » Non, non. Non, tu es appelé à vivre ces petits points, et que ces petits points soient le plus rapprochés possible pour que ça forme quelque chose qui est visible. En fait, quelqu'un qui s'est réellement converti, qui est réellement chrétien, quelle que soit la nature de l'expérimentation de la vie qu'il vive, il y a des moments où il va être rempli du Saint-Esprit, il y a des moments où Dieu va y parler, il y a des moments où il va écouter, il y a des moments où il va obéir, il y a des moments où il va expérimenter la vie de Dieu. Et peut-être que pour certains, c'est peut-être pas souvent, voire même très rare. Donc du coup, ces petits points pour garder l'image fait qu'à la fin, vous ne voyez pas une image. Vous avez quelques points, mais à la fin, ça représente quoi ? Mais celui qui accepte qu'il y ait beaucoup plus de petits points, ben, l'image de Jésus-Christ est beaucoup plus visible. Vous savez, c'est un peu comme ce jeu, je ne sais pas s'il existe encore à la télévision, où il posait des questions, des machins, et en fait, il y avait une image derrière, et il y avait des numéros. Et en fait, c'était des pièces de puzzle qu'on a enlevées, et au fur et à mesure qu'ils répondaient à des questions et qu'ils enlevaient les pièces de puzzle, ben, on voyait de mieux en mieux l'image derrière. Jusqu'à arriver à comprendre, OK, c'est quoi le personnage qui est dans l'image derrière ? Et bien là, voilà, si vous enlevez trois points de l'image, ou si vous faites juste trois points, du mal à savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire, en fait. Hein ? Alors, je peux un peu deviner par ces points, parce que peut-être que je les vois dans d'autres portraits, mais je ne sais pas. Mais par contre, celui qui accepte à ce qu'il y ait beaucoup de points, ben, on va voir mieux. Les gens vont voir mieux, tout simplement. Et nous, en tout cas, personnellement, on va mieux se porter aussi. Hein. Parce que vivre dans la chair et pécher, en fait, ce n'est jamais profitable pour nous. C'est un soulagement éphémère, hein, puisque en hébreu, il est parlé, il est dit que Moïse a préféré s'épargner ou mettre de côté la jouissance éphémère du péché, ce qui signifie qu'il y a une jouissance au péché. Voilà. Mais ce n'est jamais profitable pour nous. J'allais dire à long terme, on va dire même à moyen terme. À court terme, oui, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, continuons un petit peu. Donc, verset 12, « Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi, donc le baptême de sa mort, comme on l'a vu déjà dans Romains chapitre 6, etc., vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Donc là, c'est pareil. Je veux dire, qu'est-ce que vos faux docteurs peuvent vous apporter de plus que nous faisant grâce pour toutes nos offenses ? C'est pas possible. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix, il l'a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors là, il y a plusieurs choses. Quand il dit « il a effacé l'acte », il y en a d'autres qui traduisent « il a effacé les 1000 ordonnances ». Et en fait... ici je ne me trompe pas, mais normalement il n'y a pas de raison que je me trompe. Ouais, c'est ça. Il a effacé l'acte aux 1000 articles, pardon. L'acte aux 1000 articles. Donc l'acte aux divers articles, aux 1000 articles, c'est ainsi que l'apôtre Paul désigne la loi, en fait. Donc là, et c'est intéressant en fait que ça soit les 1000 articles qui représentent la multitude des ordonnances de la loi qu'on n'arrive pas à vivre de toute façon, ou que ce soit l'acte, comme il est traduit ici dans la seconde, il a effacé l'acte dont les ordonnances de toute façon de la loi nous condamnaient, en tout cas de cause, voilà, il y a cette condamnation, et cette condamnation qui était avérée, qui était certifiée contre nous, elle est effacée. Alors après, on sait très bien qu'elle ne peut pas être effacée par un coup de pinceau, elle est effacée par l'œuvre de Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, comment est-ce qu'il a effacé, donc il l'a cloué, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc c'est-à-dire, en fait, notre incapacité à vivre la loi parfaite de Dieu, il l'a cloué sur la croix avec Jésus-Christ. Notre nature pécheresse, notre incirconcision, ça a été cloué à la croix avec Jésus-Christ. Vous voyez ? Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, Paul, évidemment, parle dans le contexte qui est le sien, et il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire, en fait, il est en train de dire qu'à la croix, la victoire de Christ à la croix sur le péché, sur les ordonnances de la loi et sur les principautés spirituelles, c'est-à-dire en fait les démons et le diable, tout ça, il a cloué, il a triomphé. Et le terme, ici, à la fin, il a livré publiquement un spectacle et a triomphé d'elle. En fait, il est en train de décrire ce qu'est... en fait, quand un empereur romain revenait d'une victoire à Rome, c'est ce qui se passait. Il venait avec ses ennemis et il livrait en spectacle, publiquement en spectacle, en fait, son triomphe. Et là, le triomphe mis en spectacle devant toutes les principautés, devant le diable, etc., c'est ce qui nous paraît être une défaite à nous, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et bien ça, Jésus-Christ mort sur la croix, en fait, c'est l'empereur Dieu qui entre triomphalement à Rome et qui montre sa supériorité et sa victoire sur ses ennemis qui viennent de vaincre, qui sont le péché, qui sont l'acte de condamnation contre nous, et qui sont la puissance du diable contre nous, en fait. Ça, c'est l'image qu'il est en train d'utiliser ici. Et je pensais une chose, je ne sais plus si c'est ce matin, des fois, c'est vrai que... Alors, c'est un petit peu une aparté, mais bon, peu importe, ça rentre quand même dans le contexte. Quand on annonce l'évangile, on va dire aux gens, voilà, Dieu est saint, nous sommes pécheurs, et sur la croix, Christ a pris nos péchés. Donc d'abord, sur la croix, Christ n'a pas pris que nos péchés, il nous a pris nous. C'est-à-dire que notre nature pécheresse, il a pris. Il a pris les péchés que nous commettons, il a pris le péché qui est inhérent à notre nature pécheresse, à notre vieille nature, à notre nature humaine. Donc il a pris ça. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où le péché, ça veut pas dire grand-chose aux gens. Alors c'est vrai qu'on peut leur expliquer que le péché, c'est manquer le but, c'est enfreindre la loi de Dieu, etc. Et tout ça, c'est vrai. Et je me disais une chose qui peut être intéressante, et qui peut être intéressante aussi pour nous. Alors, pour eux, hein, pour comprendre peut-être un peu mieux, mais peut-être pour nous aussi, pour que ça soit plus concret, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, les mots, pour nous, au bout d'un moment, ça devient un peu des coquilles. Ça peut être un peu des coquilles vides ou des choses qui perdent un peu de sens. C'est comme on parle de l'amour de Dieu, mais en fait, amour, c'est quelques lettres, et peut-être on peut avoir un peu du mal à savoir qu'est-ce que ça veut dire derrière. Surtout que le terme amour est utilisé différemment aujourd'hui que dans la Bible. Mais en fait, par rapport au péché, je dirais que c'est quoi le péché ? Le péché, en fait, c'est la mort. C'est la mort. La mort en termes de séparation, la mort en termes d'impasse définitive, la mort en termes d'enfer, en fait. Et le péché, c'est ça. Et en fait, nous, marcher là-dedans, rentrer là-dedans, faire des choix qui vont dans ce sens-là, en fait, ça nous fait goûter ça. Ça nous fait goûter la mort, la séparation de Dieu. Mais ça nous fait goûter, voilà, ce que vous et moi, nous comprenons par la mort, une impasse définitive. Ça nous fait goûter, d'une certaine manière, un peu l'enfer. Mais ça nous fait, voilà, la mort. Vous voyez, quand on dit, on utilise le mot mort, ça veut dire quelque chose pour nous. On voit un cadavre qui pour nous, même si ce n'est pas la réalité spirituelle définitive, mais voilà, on voit un corps qui est mort, qui ne bouge plus, qui ne peut plus rien faire, qui est moche, qui va en plus se dégrader. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on voit. Et le péché, en fait, c'est ça. En fait, quand Adam et Ève ont péché, la mort est entrée dans le monde. Alors, c'est la conséquence, mais quelque part, on peut se dire, ouais, la conséquence, et en même temps, c'est ça le péché. C'est la mort. Parce que le péché, en fait, c'est pas de manger un fruit. C'est le fait de faire rentrer la mort dans ce monde, où, au préalable, il n'y en avait pas. Tu as été créé, a priori, pour qu'il n'y ait pas de fin. Tu as été créé pour qu'il n'y ait pas de séparation avec Dieu. Et à un moment donné, parce que effectivement, un événement, on ne va même pas dire manger, mais peu importe, un événement qui peut se traduire, oui, par un choix, peu importe, le résultat, c'est qu'il y a la mort qui rentre. La mort que l'on voit en Genèse, où ils vont se cacher dans les buissons, où la relation est altérée avec Dieu, et puis la mort qui fait qu'à un moment donné, ben, Dieu dit, un jour vous allez mourir, et puis votre vie, elle sera de 120 ans, pas plus. Vous voyez ? Et en fait, nous, voilà, la communion que nous avons avec notre péché, en fait, c'est ça, c'est rentrer dans la mort. Et Dieu, en fait, il vient nous proposer la vie. Et la vie, c'est intéressant parce qu'en fait, la vie, je ne connais pas. En tout cas, sa vie, je ne connais pas. Parce que moi, je connais la vie qui est imbibée de mort. Mais je ne connais pas la vie où il n'y a pas la mort. C'est-à-dire la vie de Dieu. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas la vie qui triomphe de la mort, qui apporte la résurrection. Je ne connais pas ça, en fait. Vous voyez ? Et du coup, c'est intéressant parce que quand on a des choix à faire dans notre vie, c'est un peu pareil. C'est que du point de vue de ma nature charnelle, c'est une forme de mort. Mais si je fais le choix de la vie de Dieu, il y a quelque chose à expérimenter que je ne connais pas et qui va être déjà la résurrection de la mort que je ressens avant le choix, avant l'acte, avant la parole, avant la chose qui est mise devant moi, on va dire. Hein ? Donc, voilà. On va s'arrêter là pour Colossiens, on va passer, et on va essayer d'être clair, donc à 1 et 2 Thessaloniciens. Voilà, c'est ça. Je vous ai donné les dates, c'est ça ? On n'en parle plus ? Hein ? Non, je vous ai pas donné. Si je vous ai donné une date, mais je crois qu'il y en a deux à donner. Oui, je crois qu'il y a un an d'écart entre les deux, peu importe. Voilà, 52-53. Ça a été écrit avec quelques mois, un an d'écart, on va dire. Faites-vous un peu. Si ici, s'il est plus précis, je vous le dis de suite rapidement, qu'on ne dise pas trop d'approximations. Alors oui. Donc oui. Bon, lui parle même de 51 ou 52. Comme il veut, c'est pas grave. On lui en veut pas. Et donc ouais, c'est ça. Donc en gros, un an d'écart entre les deux, on va dire, à tout casser. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans ces lettres thessaloniciennes ? Donc là, par contre, oui, il s'adresse à une église, donc Thessalonique. Attendez, on va venir aux bonnes pages. Voilà. Donc déjà, Thessalonique, c'est une grande ville, hein, peuplée de 200 000 habitants, ce qui est quand même déjà pas mal. À Thessalonique, il y a des Grecs, des Romains et des Juifs. Donc voilà, donc il s'adresse à ces gens-là. En fait, ce qui se passe avec Thessalonique, en fait, c'est qu'il y a des choses qui se passent ou des inquiétudes dans cette église qui ont peut-être eu lieu d'ailleurs dans d'autres églises. C'est que le temps avance depuis que Christ est mort, depuis que la Pentecôte a eu lieu. Et vous savez que, donc à la Pentecôte, Jésus a dit « Je reviens ». Enfin, en tout cas, les anges ont dit qu'il allait revenir comme... Voilà, etc. Et donc, il y a un petit peu de confusion là-dessus. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu en Actes et on le voit à travers certaines lettres de Paul, etc., les premiers chrétiens, les premières décennies après la mort de Christ, après la résurrection, ce que pensaient les chrétiens à ce moment-là, c'est qu'il allait revenir là, maintenant, de leur vivant. Et donc, au bout d'un moment, les gens meurent. Et du coup, eux, ils se disent, mais qu'en est-il ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Il meurt, il n'est pas revenu, mais alors, qui que quoi, où donc, hein ? C'est compliqué, tout ça, là. Il y en avait aussi qui, du coup, comme il ne revient pas et qu'on attend le retour de Christ, il y en avait, ils vivaient au crochet des autres. C'est pour ça que dans Thessaloniciens, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais je crois que c'est dans le premier, à un moment donné, il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce qu'il est en train de s'adresser à des gens qui, finalement, avec une mauvaise compréhension, ils tordaient un peu les choses pour un certain intérêt qu'ils pouvaient avoir. Mais qui était dû, effectivement, à une mauvaise compréhension, en tout cas. Jésus revient, donc on ne va pas travailler. Là, il revient, là. Hein ? Et donc... Voilà. Et donc il y avait ce problème-là. Et donc lui, il est en train de, Paul, de répondre un petit peu à tout ça. Et donc c'est intéressant parce que du coup, il y a des termes un peu à définir, on va dire, légèrement. Et on va. Je vais essayer de mettre un peu en évidence des choses dans 1 et 2 Thessaloniciens. Donc on va s'arrêter un peu sur des versets, mettre un peu en parallèle, essayer de montrer que c'est pas pareil ou ceci ou cela. Alors accrochez-vous, ça peut être un peu dur. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Donc il est dit, alors je vais vous dire le verset d'avant, sinon c'est vrai que c'est pas fluide. Verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, je vais faire un commentaire là-dessus, mais je vais d'abord lire un autre verset, c'est toujours en Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Donc pareil, je vais lire un peu le contexte quand même. Donc je lis le début. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'au verset 10 du chapitre 1, il est dit « Pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Et ce que je veux dire par là, c'est que la colère à venir, ici au verset 10, et les tribulations auxquelles nous sommes destinés en 1 Thessaloniciens 3:3, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent dire au verset 10... Quand il dit il y en a qui peuvent dire plutôt que au verset 3, ils peuvent dire que voilà, nous sommes il dit au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc nous sommes destinés à des tribulations, et ces tribulations, ils peuvent dire c'est justement la période de grande tribulation qui doit arriver à un moment donné, à la fin. Puisque là, on est en train de parler de deux lettres qui sont en train de parler d'eschatologie, de fin des temps, en fait. Hein ? Et là, quand il est dit, dans le premier verset que j'ai dit, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité, on parle bien d'un retour de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et la chose, elle doit pas être comprise ainsi. Pourquoi ? Parce que pour moi, en 1 Thessaloniciens 3:3, les tribulations présentes, ce sont les tribulations qu'il va y avoir dans la vie de chacun. Et donc, il est simplement en train de dire, voilà, il est normal qu'il y ait des tribulations dans la vie, et notamment en tant que chrétienne. Et vous êtes effectivement destinés à traverser des tribulations. Par contre, au chapitre 1, quand il est en train de dire « Il a ressuscité des morts Jésus, qui nous délivre de la colère à venir », pour moi, cette colère à venir, c'est la grande tribulation, c'est la tribulation qui doit venir, à un moment donné, ponctuel sur la terre. Vous comprenez ? Donc, il y a des tribulations quotidiennes auxquelles nous sommes destinés, et il y a une grande colère à venir, effectivement, à laquelle, il est dit ici, nous sommes délivrés de la colère à venir. Donc, ce que Christ a fait, fait que nous sommes délivrés de la colère à venir. Ce qui veut dire, et ce qui donne du sens à notre théologie sur la fin des temps, sur l'eschatologie, qu'effectivement, les chrétiens ne seront pas là pendant cette colère à venir. D'ailleurs, en parlant de termes, quand il est parlé de comment il est dit, le jour de Jacob, oui, la colère de notre Dieu au jour de Jacob dans l'Ancien Testament, ça parle, pour moi, effectivement, de cette période de tribulation. Et c'est effectivement, alors il y a plusieurs terminologies pour parler de ça, mais en tout cas, celle qui parle de la colère du jour de Jacob, c'est le même terme qui est utilisé, on parle de colère. Donc nous ne sommes pas destinés à cette colère. Par contre, nous sommes destinés à des tribulations. Les tribulations, c'est le quotidien, la colère, c'est un événement à venir. Et nous sommes définitivement destinés à ne pas vivre cette colère. Parce que c'est un bénéfice de la croix de Christ. Donc ça, c'est une chose, un parallèle que je voulais montrer, pour montrer que là, on ne parle pas de choses, qu'il y a deux colères. Alors, oui, voilà, donc alors on va continuer. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. On va prendre donc du coup un peu le passage. On va lire doucement et on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Donc 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. On y va. Je l'ai dit hein, qu'on y allait, donc on y va. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Là, ceux qui dorment, c'est ceux qui meurent. Ils sont morts. Alors, ils dorment et en plus, ils meurent. On va être surpris. Hein. Donc, ceux qui dorment, ce sont ceux qui meurent. Pourquoi je dis sont morts, je sais pas. Bon, voilà, ce sont les morts, mais les morts physiques. Et c'est donc la problématique dont je parlais tout à l'heure. Jésus doit revenir, mais on a des chrétiens dans l'Église qui meurent, là. Donc, je ne veux pas que vous soyez ignorants de la chose. Donc, je vais vous en parler. Donc, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens. Et qui, eux, forcément, s'inquiètent de la suite d'une personne qui est décédée. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et là, l'avènement du Seigneur, en fait, c'est quand Jésus va revenir. Mais en fait, c'est pas ce qu'on appelle. Alors, on va la faire autrement. Le retour de Christ, en fait, il y a deux étapes. Et des fois, on ne sait pas de quoi on parle. L'avènement du Seigneur, c'est quand il va revenir pour ce que j'appelle l'enlèvement de l'Église. Et donc là, il ne vient pas sur terre. Et donc, ceux qui sont morts avant qu'il vienne, donc en l'occurrence, du coup, il y en a beaucoup, mais bon, eux, à leur époque, ils se disaient, ben, il arrive demain, ils sont morts hier. Hein, et lui, il est en train de dire, en fait, eux, ils vont être ressuscités, ils vont arriver avec Jésus. D'accord ? Donc, ramènera par Jésus, ben, évidemment par Jésus, parce qu'ils ne vont pas se ressusciter tout seuls, et avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, donc ceux qui seront vivants au moment où Jésus va venir dans les cieux, enfin, qui va venir sur les nuées plutôt, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Jusque-là, nous comprenons bien. Hein, il descendra du ciel, il va y avoir les trompettes, et ceux qui sont morts physiquement avant, vont être ressuscités et arriver avec lui, ou le rejoindre. Ensuite, nous les vivants, donc les vivants à ce moment-là sur terre et croyants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Le terme en grec, c'est arraché, en fait, donc il n'y a aucune bonne œuvre à faire. Avec eux, donc avec ceux qui sortent des tombeaux, en fait, quelque part, pour garder l'image, parce que je ne sais pas trop comment ça se passera, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, ça parle de ce que j'appelle l'enlèvement du Seigneur. Donc, c'est l'avènement de Christ. Et ce n'est pas le retour de Christ. Ça se passe dans les airs, dans cette sphère qui est ce monde-là, effectivement. Donc, à la trompette de l'archange. La trompette, je joue bien, moi, la trompette, vous avez vu ? À la trompette de l'archange. Voilà. Et donc, ça, ce n'est pas le retour de Christ. Et si vous vous rappelez, peut-être que vous vous rappelez, parce que je dis beaucoup de choses d'une semaine à l'autre, quand on a parlé d'acte 2, les anges disent, il va revenir comme il est parti sur cette montagne, et il va la toucher, cette montagne. Et ça faisait référence à ce qu'on avait lu dans Zacharie 14. Ce sont deux événements différents. Et les anges, en acte 2, ne parlent pas de trompette. Je fais bien ça. Ils parlent... Des fois, on a des gestuels, c'est des trucs à reprendre, ça. Ça marche bien, ça. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, globalement, on va dire, il est parlé de retour de Christ de manière générale avec des terminologies différentes, mais en fait, on s'aperçoit, dernière, différentes terminologies, qu'il y a deux événements qui ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça que je veux dire. Il y a un événement où, clairement, ça va toucher la montagne, et clairement, il va y avoir un jugement des nations, etc., etc. Et en fait, ce Jésus qui vient sur la montagne, c'est pour juger et régner. Et il y a un autre moment qui est celui qu'on vient de lire ici, où il y a l'avènement de Christ, où c'est dans le ciel, il ne touche pas la montagne, il ne reste pas ici, et c'est nous qui allons vers lui et qui nous arrache par cet enlèvement. Il y a deux descriptions, manifestement, de deux retours. Et ce qui se passe entre les deux, c'est ce qu'on appelle la tribulation, la colère. Et cette colère à laquelle nous ne sommes pas destinés et qui est différente des tribulations auxquelles nous sommes destinés. Et si on confond les terminologies et on dit colère, tribulation, c'est la même tambouille, oui, forcément, c'est la même tambouille, c'est le même événement. Mais comment tu peux ne pas être destiné à une colère et être destiné à la tribulation et c'est le même événement ? Et donc peut-être que les gens qui vont être tenants d'une autre théologie, d'une autre eschatologie, vont certainement dire que cette colère, au contraire, ça va plutôt être le quotidien. Mais là, on est dans un autre problème. C'est que la réalité de notre expérience, c'est que si la colère, c'est ce que moi j'appelle une tribulation ou une épreuve, soit tu es aveugle sur ce que tu vis tous les jours, soit tu te racontes pipeau. La deuxième gestuelle, hein. T'as vu, hein ? Il y a ça, là, mais là, c'est pipeau, c'est pas pareil. Là, c'est tu le tiens, et là, non, c'est pipeau, c'est dessus la flûte. Voilà. Alors, ceux qui écoutent, ils comprennent rien. Mais c'est pas grave, ils n'ont qu'à venir. C'est plus rigolo sur place. Donc voilà, peu importe. On continue de lire pour essayer de se mettre un petit peu en place. Pour ce qui est... Alors voilà, et on continue, les enfants. Pour ce qui est des temps et des moments... Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, on sera surpris. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va être. D'accord. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine... Alors, là, voilà, intéressant. En fait, là, il est... Excusez-moi, c'est moi qui m'embrouille tout seul, je suis grand. Hein. Là, il va commencer à parler, justement, de la deuxième étape. Quand il va revenir pour régner. Parce que pour ce qui est des moments, on ne sait pas, mais de toute façon, on ne sait pas ni pour avant ni pour l'autre, forcément. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils échapperont point. Voilà. Donc, on va en rester là. Ensuite, on a un peu plus loin, que j'essaye de suivre l'ordre de ce que j'ai marqué, parce que sinon. Ah oui! Alors, je reviens peut-être légèrement en arrière, mais pour mettre un petit coup sur le nez. Oui, non. Oui ou pas non? Oui, si, d'accord. Alors, attends, pourquoi j'ai mis 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, versets 1 à 5 c'est qu'il faut que je continue à lire les deux versets qui suivent. Mais vous, frères, vous n'êtes... Voilà, c'est ça. Donc, mais vous, frères, vous n'êtes pas... C'est intéressant. Vous n'êtes pas dans les ténèbres... parce que oui, j'ai mis ça, mais en fait, là, je n'avais pas surligné, donc j'ai arrêté de lire. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc ça veut dire que nous, en fait, que je remette un peu à l'endroit mes choses, là, parce que là, je m'y perds tout seul. Là, ça, c'est autre chose. Ah, mais attends, ou alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, si c'est pas possible, il n'y en a pas cinq. Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Alors, donc, quel est mon enfantement ? Oui, en tout cas, voilà, la chose que ça met de toute façon en évidence, c'est qu'il va y avoir ce moment de colère qui va être un moment de ténèbres, et nous ne sommes pas des ténèbres, donc effectivement, nous ne sommes pas quelque part être surpris et être surtout dans ce moment-là. Ensuite, continuons, c'est pas grave. Si on doit revenir en arrière, on reviendra en arrière, c'est pas grave. 9-10, je vous l'ai lu, donc les deux colères, je vous l'ai dit, ça, on n'en parle plus. Verset. Alors oui, j'avais toute une portion avant, mais est-ce que je vais laisser ça sur peut-être autre chose. Oui, donc ça, c'est si on a le temps, mais on n'a pas le temps. Donc versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, pardon, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des conditions, on va dire, d'œuvre ou de bienséance pour vivre l'enlèvement de l'Église, donc l'avènement de Christ. Et qui, du coup, vont placer un peu comme s'il va y avoir les bons chrétiens qui vont être enlevés au début et d'autres qui vont souffrir un peu une partie de la tribulation et qui partiront plutôt pour être purifiés, plus tard, pardon. Donc là, ça n'a pas de sens. Le Dieu de paix, c'est lui qui nous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Il ne parle pas de deux événements. C'est lui qui nous sanctifie, et surtout, verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc là, ce n'est pas conditionné. D'abord, il n'est pas parlé de deux événements, là pour le coup, pour l'avènement de Christ. Et puis, c'est lui qui le fera, et c'est lui qui sanctifie. Donc ça ne peut pas être conditionné à être, je me dis schématiquement, c'est plus compliqué que ça, mais à être un bon chrétien au moment où Christ reviendra. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, dans 2 Thessaloniciens, on a aussi des choses que nous allons voir. Donc au premier chapitre, verset... Alors... juste, je vous lis un peu aussi un verset. Au chapitre 2, je reviendrai au chapitre 1 avant. Chapitre 2, il est dit, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus... » Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations que certains auraient, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc ça laisse sous-entendre ce qui était enseigné comme fausse doctrine. Donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc là, c'est intéressant. Parce que là il n'est pas en train de parler... comment dire ? Quand il parle d'apostasie et des choses comme ça, en fait, voilà, il est en train de parler voilà, de ce qui va être avant, justement, cette période de tribulation où il va y avoir l'antéchrist qui va être élevé. Donc là, c'est la personne dont il est en train de parler, le fils de la perdition. C'est celui dont on identifie par ailleurs comme étant l'antichrist. Donc il doit rentrer dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu, comme il est dit. Mais par contre, ce qui est très intéressant, il est dit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » D'accord ? Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, et alors paraîtra l'impie, donc cet antéchrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Là, son avènement, ça ne va pas être la première venue. Ça va être la deuxième fois quand il va venir pour régner. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici, le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça ne correspond pas à « il arrive du ciel, les trompettes, on monte, on ne touche pas à la terre ». Non. Il règle le compte au fils de la perdition, comment il nous est dit encore, l'impie, et donc, dit par ailleurs, l'antéchrist. Vous suivez ? Difficilement, mais oui. Par contre, la chose qui est alors, je continue de lire malgré tout. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Alors, je le répète, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et là, effectivement, on parle bien de sauver, de salut éternel. Hein. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. La condamnation, là, par contre, ça nous parle de cette période qui va être traversée par eux, et pas par nous. Maintenant, je reviens plus haut. Il nous est dit... Au verset 6 et 7. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » L'arrivée, donc, de l'homme impie qui va être pendant la tribulation. « Vous savez ce qui le retient. » C'est un neutre. Ce qui le retient, c'est un neutre. C'est ni féminin, ni masculin. D'accord. « Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. » Donc là, les grands théologiens qui comprennent bien le grec et tout, évidemment, ils ne sont pas d'accord sur voilà, c'est un neutre, mais l'autre, c'est pas un neutre, mais en fait, c'est quand même un neutre, etc. Okay. Donc moi, je reste sur une certaine ligne de conduite. C'est qu'ici, il nous a parlé effectivement de ceux qui le retiennent, mais il nous a aussi parlé de celui qui le retient. Et donc, pour moi, qu'est-ce qui peut retenir l'avènement de l'homme impie pour cette période particulière de la colère de Dieu ? C'est quoi ? Pour moi, c'est le Saint-Esprit. Pour moi, c'est le Saint-Esprit. Je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. Hein ? Mais par contre, pour moi, il y a une conséquence. Si c'est le Saint-Esprit, ça signifie... Et donc, s'il faut que le Saint-Esprit ne soit plus là quand l'homme impie, le fils de la perdition, l'antéchrist, viennent par la puissance de Satan, ça signifie que l'Église n'est plus là. Parce que le Saint-Esprit est dans tous les croyants. Donc si à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, le Saint-Esprit n'est plus sur Terre, puisque là, c'est bien ce qui est sous-entendu, c'est que l'homme impie viendra quand il n'y aura plus ce qu'il retienne ou celui qui le retienne. Et donc, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre, de manière un peu sensée, que le Saint-Esprit. Et s'il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus l'Église. Et donc... Ça tient tout à fait avec mes deux événements et avec le fait que voilà, ceux qui sont morts, ils vont monter, les nuées, les trompettes, je vous le refais, etc. Vous comprenez un peu le là où il y a du sens. Donc ça, c'est fait. Juste ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de ne pas travailler, je vous le lis, 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communion avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de communion, afin qu'il éprouve de la honte et qu'il revienne, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y aura la repentance entre-temps. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'agressivité et de haine, même dans le fait de refuser une communion avec des frères, s'il doit y avoir. Et donc ici, la chose qui est aussi intéressante, c'est que donc, le contexte, c'est ça, c'est les gens meurent, Jésus va revenir, on se pose des questions, et en même temps, il y en a qui, du coup, ils partent un peu en vrille, et donc ils veulent un peu vivre au crochet du reste et pas travailler parce que Jésus revient. Là, il reprend la chose. Donc ce qui veut dire aussi que ce verset-là, par exemple, ça veut dire que comment est-ce que vous allez l'appliquer aujourd'hui au XXIe siècle ? Ben écoute, que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Il y a 20% de chômage dans le pays, que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Ben écoutez, on va être un peu moins nombreux dans l'Église dans le pays dans pas longtemps, hein. Si on ne fait pas, si on fait pas preuve de générosité entre nous, s'il n'y a pas de banque alimentaire, si on ne s'occupe pas des pauvres, si on ne donne pas à ceux qui ont besoin, on est d'accord. Donc ça, c'est dans un certain contexte. Deuxième chose, même si on veut appliquer bêtement ce verset-là à notre contexte, il dit quelque chose de précis, l'apôtre Paul. Il dit, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les ordres, Donc si quelqu'un ne veut pas travailler, quand il y a 20% de chômage ou plus, ce n'est pas forcément une question que quelqu'un ne veut pas travailler. C'est qu'il n'y a pas moyen de travailler. Donc ce que je veux dire, c'est que les situations doivent être prises une par une, les gens doivent être pris un par un, et c'est pas... voilà. Et en plus, là, c'est dans un contexte particulier où les gens profitaient par des motifs théologiques erronés. On va être obligé de s'arrêter, on continuera la semaine prochaine. On dira deux bricoles de plus sur deux Thessaloniciens et je pense qu'on avancera plus vite sur la suite pour combler les trous. À la semaine prochaine.